Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Chers auditeurs, je ne sais pas si vous êtes menteurs souvent, c'est une des choses dont on peut s'accuser en confession régulièrement, et ce à propos de quoi on peut s'observer dans sa conduite. On traite les mensonges un petit peu par choses peu importantes, mais ça peut avoir des conséquences graves, comme ce récit que nous commentions l'autre jour du massacre et des quelques 80 prêtres de Nob, où David était passé pour prendre les pains consacrés au Seigneur. Et il avait dit, chose qui n'était pas vraie, il y avait un témoin, et donc ce qui fait que Saül a trucidé à peu près donc une petite centaine de prêtres et a rasé leur ville. Donc, je parlais l'autre jour aussi des mensonges joyeux qui sont des formes de plaisanterie ou d'exagération, et ça ce n'est pas très, très, très important. Les mensonges qu'on appelle utiles sont plus complexes. Qui n'a pas tenté un jour ou l'autre de mentir légèrement pour éviter tel ou tel ennui? Faire répondre par la secrétaire que monsieur n'est pas là ou monseigneur n'est pas là, alors qu'il y est, est un vrai mensonge. Et dire qu'on n'est pas libre à tel moment pour éviter un fâcheux, comme disait Molière, alors qu'on est libre, c'est mentir. Par contre, lors d'une perquisition de guerre, mentir en disant que celui que l'on cache n'est pas là est encore un mensonge, bien que son utilité dans ce cas soit grande puisqu'il s'agit de sauver une vie humaine. De la même manière, doit-on dire au voleur qui vous menace, doit-on lui dire où se trouve votre argent ? Ou peut-on mentir dans cette circonstance ? Le proverbe dit bien que toute vérité n'est pas bonne à dire, dans le sens que l'on ne doit pas dire n'importe quand et ni de n'importe quelle manière ces vérités à quelqu'un. Mais on peut aussi élargir ce proverbe en comprenant la vérité n'est pas toujours à révéler, ou pas révéler dans le moment précis où on se trouve. Il peut même y avoir faute grave à trahir un secret. Quand on ne doit pas mentir, et quand on ne doit pas non plus, pour diverses raisons, dire la vérité ou toute la vérité, il reste, selon la formule de saint Augustin, à dissimuler prudemment la vérité, en jouant honnêtement, à l'occasion, avec la restriction mentale. Et c'est là, d'après les plaisanteries qu'on peut faire entre ordres religieux, un art où sont maîtres un peu les jésuites, et la restriction mentale. Après le massacre des prêtres de Nob, la fureur de Saül n'est pas apaisée, et il continue de traquer David, qui s'est réfugié avec ses hommes, au nombre d'environ 600 tout de même, dans le désert de Ziph, au sud d'Hébron, au sud de la Terre Sainte. C'est là que Jonathan vient retrouver son ami. S'étant mis en route, Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David à Horsha et le réconforta au nom de Dieu. Alors, c'est une magnifique expression. Il le réconforta au nom de Dieu. Littéralement, en hébreu, on lit « Il fortifia ses mains en Dieu ». Le texte inspiré souligne encore, par cette discrète notation, la portée divine de l'amitié qui unit les deux hommes. Le réconfort apporté à David par Jonathan est donné au nom de Dieu, et l'affection humaine procure une force divine. Jonathan exprime clairement à son ami ses pressentiments sur l'avenir. « Sois sans crainte, car la main de mon père Saül ne t'atteindra pas. C'est toi qui régneras sur Israël, et moi je serai ton second. Mon père, Saül, lui-même, le sait bien. » On le voit, à de profonds et justes pressentiments se mêlent des projets humains qui, eux, ne se réaliseront pas, car la mort empêchera Jonathan d'être le second de David. De la même manière, il peut nous arriver en certaines circonstances d'avoir l'intuition de ce qui va nous arriver. Mais cela s'accompagne souvent de désirs concrets qui ne verront pas forcément le jour. L'entrevue amicale de Jonathan et de David est pour eux l'occasion de ratifier le lien qui les unit devant Dieu. Ils concluent tous les deux un pacte devant le Seigneur. David demeura à Orcha et Jonathan s'en alla chez lui. Un jour, Saül, informé par les gens du désert, se mit en devoir d'aller cueillir David dans ses refuges sur la colline de Hakila, au sud de la steppe. David fut averti à temps et put s'enfuir, mais il se trouva que les adversaires se firent face sur les deux versants d'une gorge resserrée. Les hommes de Saül seraient parvenus à traverser le défilé si un messager n'était venu annoncer à Saül que les Philistins avaient de nouveau envahi le pays. C'est pourquoi on a appelé cet endroit, dit le texte, la gorge des séparations. Et dès que les Philistins furent refoulés, Saül repartit à la poursuite de David, et le texte dit avec 3000 hommes, soit dit dans tout Israël. Nous avons dit qu'ils étaient 600 auprès de David. Parvenu à un certain parc à brebis, enclos fait de pierres sèches, comme celles que bordent les champs à peu près de la mer en Bretagne ou dans nos alpages, ou nos pyrénéages, devrais-je dire, Saül éprouve le besoin de se couvrir les pieds. Euphémisme hébraïque pour évoquer une envie pressante. Se couvrir les pieds. Il entre dans une grotte en vue de se soulager, celle précisément où s'étaient réfugiés David et quelques-uns de ses hommes. Et ceux-ci pensent, évidemment, que l'heure de la vengeance a sonné pour David. « Voici le jour où le Seigneur t'a dit, c'est moi qui livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme il te plaît. »